Et donc là, on s'en va dans le récit, en fait, de l'Ancien Testament qui nous donne la deuxième occurrence, on peut-tu dire ça? La deuxième occurrence de ce rocher, là. La première était dans Exode 17, mais on s'arrête aujourd'hui avec la fois où Moïse a frappé deux fois. Lui qui devait parler a frappé. On va lire, ça va vous rafraîchir la mémoire, vous allez voir. Nombre 20, on va lire les 13 premiers versets. J'espère qu'on n'a personne de superstitieux, on lit 13 versets. Ouh. En fait, c'est même pas dans les originaux, les versets, fait que faites-vous-en pas. En fait, dans les originaux, là, on lirait de l'autre bord à l'envers. Les langues comme ça, arabe, pas juif, hébreu, on lit de même. Ouais. Donc, on est là, tout le monde, en nombre 20. On peut lire toute l'assemblée des enfants d'Israël arrivant dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse et dirent, « Qu'en avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. » Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce donc de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? » Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée, but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont les eaux de Meriba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel et il fut sanctifié en eux. Seigneur, on te remercie de ce qu'on a ta parole entre les mains ce matin. Oui, la divine parole qui soutient notre foi. Oui, elle est claire. Cette clarté console nos cœurs. Tu n'es pas un Dieu qui se cache, qui est incompréhensible. Au contraire, comme on le voit cette année, tu es le Dieu qui se révèle. Qui se révèle en Jésus-Christ, qui se révèle à travers le Saint-Esprit qui prend toutes les choses de la parole et nous les pointe à Christ qui est l'accomplissement des Écritures. Merci pour Christ dans ce passage, le rocher duquel coulent toutes les bénédictions. Le flot de la grâce. Seigneur, ouvre nos yeux pour qu'on soit enseigné de toi-même avec ce passage précieux ce matin. Et accomplis ta volonté. On ne veut pas juste être instruit, on veut être transformé par ta grâce. Parce qu'on en a tellement besoin. On est un peuple qui se tient dans le besoin absolu de toi, Seigneur. Ouvre nos yeux aussi sur notre autosuffisance. Comment souvent on peut dire avec notre bouche qu'on a besoin de toi, mais vraiment qu'on s'en rend compte profondément dans nos cœurs. Ouvre nos yeux, Seigneur, qu'on contemple les merveilles de ce passage que tu mets sous nos yeux. On te le demande au nom de Jésus.
Amen.
Amen. Vous savez, ce beau texte qu'on considère ce matin, c'est un des textes que j'aime bien dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que la symbolique est forte. On voit dans ce passage le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pas moi qui ai inventé ça, sous l'inspiration du Saint-Esprit, on a vu dans 1 Corinthiens, hein, au chapitre 10, que ce rocher qui suivait le peuple d'Israël, c'était Christ lui-même. Et j'y ai référé tantôt, mais le premier incident de ce rocher, c'est dans Exode 17, où est-ce que Moïse était appelé à frapper le rocher. Et vous savez, ce premier incident dans Exode, c'est un type de la croix. Où est-ce que Jésus, frappé pour nos péchés, a fait couler le flot de la bénédiction de sa grâce. Comme c'est prophétisé dans Ésaïe 53. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. C'était le type qu'on voyait dans Exode ici. Ça devait être un type de la résurrection. Ou est-ce que ce même rocher, il devait, sur la parole de Moïse, devait laisser couler le flot de sa bénédiction. De la même manière que Dieu le Père a ordonné, selon le timing parfait de tout ce qui avait été établi dans le plan rédempteur de Dieu, qu'après 3 jours, le Fils allait sortir du tombeau, vaincre la mort sur la parole du Père. Mais ici, contrairement à dans Exode, où est-ce que Moïse était un type du Père qui frappe le Fils pour nos péchés, ici, le type n'est plus un type divin. Moïse n'est plus le type qui représente le Père et le Fils, mais il est présenté dans sa faiblesse humaine, qui craque sous la pression des circonstances, des relations tendues. Et elles étaient tendues, je dirais, à l'extrême, ces tensions entre lui et le peuple. Donc, on a devant nous une puissante image de ce que c'est de traiter les autres en basant notre relation sur ce que l'autre mérite, sur la loi versus la grâce. Parce que si on se traite comme on mérite, personne ne mérite rien. Bon, c'est ce que la loi nous dit. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La loi nous révèle notre totale incapacité, nous révèle notre péché. Et Moïse avait raison de dire que ce peuple était rebelle. Il était rebelle. Mais Dieu avait quelque chose d'autre qu'il voulait enseigner à ce passage-là. Et c'est pour ça qu'on voit le verdict divin. Bon, vous connaissez l'histoire, il a frappé. L'eau est sortie du rocher. Mais l'Éternel a dit au verset 12, il a dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. » Donc, le diagnostic divin, il dit, « Vous n'avez pas cru, vous avez été incrédule. » Donc, il y avait l'incrédulité, mais aussi il y avait de l'orgueil. Vous ne m'avez pas sanctifié, vous vous êtes mis vous de l'avant. Hein, dit, puis d'ailleurs, sa sœur a dit, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Hein, c'est lui qui voulait se sanctifier, voulait se mettre de l'avant, bien, il a frappé. Alors que Dieu voulait, lui, être montré comme celui qui est incomparable, celui qui fait le miracle de la grâce, ici qui était illustré par l'eau qui sort du rocher, chose impossible. Comme la grâce d'ailleurs, c'est quelque chose de surnaturel, de divin, d'impossible humainement. Le salut vient de l'Éternel. Donc, ici, on voit qu'il n'avait pas mis sa confiance en l'Éternel pour agir comme il l'avait fait, pour le présenter, pour présenter Dieu, l'Éternel, tel qu'il est vraiment. Parce que Moïse ne présentait que le côté sévère, rétributif, face à tout l'entêtement de ce peuple. Lui était tanné, puis pour moi, il devait se dire, Dieu aussi est tanné, donc c'est ce qu'il a représenté. Il ne l'a pas sanctifié comme le Dieu de toute grâce. C'est ce que Dieu voulait mettre de l'avant. Il voulait mettre le fait que, malgré la rébellion, Dieu a une grâce incroyable. D'ailleurs, je vous lis à ce sujet-là ce que Paul dit dans Romains 10, 21. Il dit au sujet d'Israël, « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contradisant. » C'était ça le point. Oui, il était rebelle, il était contradisant, il était tout le temps en train de donner du trouble, mais Dieu voulait se présenter comme celui qui a les bras tendus comme ça devant ce peuple rebelle et contradisant. C'est ça l'image que Dieu voulait, mais voulait être sanctifié, mis à part, mis à être vu comme ça par le peuple. OK? Puis d'ailleurs, c'est pas le seul endroit dans la Bible. Dans toute la Bible, Dieu met beaucoup d'efforts, si je peux m'exprimer ainsi, d'accent sur le fait de se présenter tel qu'il est en réalité. Pas selon l'imagination de la vanité humaine, la tromperie de l'imagination humaine. Non. Il veut se présenter tel qu'il est. La Bible, c'est la révélation de Dieu. C'est pas l'invention de Dieu. C'est la révélation de Dieu tel qu'il est, dans son entièreté, au complet. On peut pas prendre et laisser. Il faut prendre tel que c'est. D'ailleurs, c'est ça le but. Quand Dieu est sorti d'Égypte, il voulait montrer, je suis pas comme tous les dieux. Puis d'ailleurs, les 10 plaies s'attaquaient à 10 divinités de l'Égypte pour montrer comment Eux autres sont rien, puis Dieu est supérieur. Même chose avec Élie et Élisée qui étaient des prophètes admirants qui montraient que ces idoles vers lesquelles Israël se détournait n'étaient rien, mais que Dieu est le seul vrai Dieu. Dieu voulait se sanctifier aux yeux de son peuple. Et quand on y pense, c'est bien simple de savoir ce que nous croyons réellement par rapport à Dieu. C'est savoir, OK, je vais faire un diagnostic ce matin, quelle est ma foi ce matin face au Dieu de la Bible. Mais comme avec Moïse et Aaron ici, nous n'avons qu'à regarder à notre réponse à ce que Dieu nous envoie. Dieu m'envoie des choses dans ma vie, des circonstances, des personnes, et ma réponse révèle ce que je crois au sujet de Dieu. Notre réaction, c'est notre réponse à ce que nous croyons que Dieu est. Qui est ce Dieu qui permet ces choses? Ça démontre, est-ce que nous croyons tout ce que Dieu dit qu'il est? Qu'effectivement, Dieu, il change le mal en bien? Que Dieu fait concourir toutes choses? Est-ce qu'on croit ça vraiment? Et est-ce que aussi nous sommes humbles pour nous soumettre, lui faire confiance, malgré que ça ne fait pas du sens pour nous, malgré qu'on n'aime pas ça? Et c'est comme ça, dans cette foi et cette humilité qu'on sanctifie, qu'on le met à part, qu'on montre comment Dieu est unique. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Qu'on magnifie son grand nom. Qu'on l'exalte pour qui il est. Et vous savez, dans les deux dernières semaines, on a eu deux exemples de ça. Vous vous rappelez, il y a deux semaines, on a vu l'exemple de Jonas. Puis la semaine dernière, on a vu l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est une bonne illustration de ça. Jonas, il a répondu à ce qui arrivait en s'imaginant un Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible. Il voulait juste un Dieu sévère qui punit ses ennemis. Il n'acceptait pas un Dieu qui pardonne. Parce que c'est quoi qu'il a dit quand Dieu l'a finalement... OK, il l'a renvoyé à Nénive, puis là, il y a eu de la repentance. Mais il dit, je savais, c'est pour ça que j'ai fui, parce que je savais que tu étais un Dieu miséricordieux, puis je voulais pas de ce Dieu-là. Shadrach, Meshach et Abednego, par contre, face à la pression des circonstances, et je dirais ça aussi, c'était extrême, il était face à la fournaise ardente. Il savait que Dieu est en Dieu. Ils ont dit, roi, sache que on ne va pas céder à la pression. Pourquoi? Parce que notre Dieu peut nous délivrer. Donc, c'est tout ce qui découlait de leur appréciation de Dieu, de qui Dieu est dans leur vie. Et c'est ça pour nous autres aussi. Voyez-vous, avec ces deux illustrations que je viens de donner, puis on va le voir aussi avec Moïse ici, ce qu'on croit au sujet de Dieu, c'est déterminant par rapport à comment nous allons réagir dans nos vies. Vraiment. Donc, on va voir ici deux réponses. Aux personnes puis aux événements qui révèlent le fruit de nos œuvres. Dieu révèle le fruit de nos œuvres. D'abord, selon la première réponse qui peut être une réponse selon la loi. Là, ici, je veux juste souligner qu'il y avait déjà un mensonge. Tu sais, moi, je donne vraiment. Je ne suis pas dur avec Moïse. Je veux dire, la Bible nous dit que Moïse était l'homme le plus patient. Je veux dire, j'avais été avec Moïse, ça fait longtemps. Moi, je n'aurais pas prié Dieu, non, garde le maison, c'est le temps, puis on recommence à zéro. Tu sais, quand Dieu a dit, là, on recommence à zéro. Oh, mais il était patient. Il n'était pas facile, le peuple, dans le désert. Puis en plus, il mentait, parce que quand on dit au verset 5, « Pourquoi vous nous avez fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce lieu méchant? » Faux. Dieu les avait fait sortir d'Égypte pour les amener dans la terre promise. Puis c'était de leur faute s'ils étaient rendus dans ce lieu méchant. C'était par leur propre incrédulité. C'est pas Moïse et Aaron qui les a amenés dans ce lieu méchant. C'était eux-mêmes à cause qu'ils s'étaient rebellés contre Dieu. Dieu voulait, la volonté de Dieu, c'était de les faire rentrer dans la terre promise. Ça montre comment, connaissez-vous Lamentation 3:39, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Quand on blâme les autres, parce qu'on ne voit pas ce que nous, on a à prendre comme blâme. Let that sink in, comme dirait quelqu'un que je connais, qui parle anglais. Non, mais... C'est une illustration ici du fait que l'homme, dans sa nature tordue, dans sa pensée orgueilleuse et incrédule, ne regarde pas, ne comprend pas, n'analyse pas la réalité selon la vérité, mais selon ce qu'il imagine. D'où le besoin tellement important de la parole de Dieu. Christ a dit, en priant au Père, il a dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. On est conforme au siècle présent de façon automatique et naturelle. On a besoin d'être transformé dans le renouvellement de l'intelligence pour qu'on puisse vraiment être convaincu, discerner que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Amen. Et ici, on voit avec l'image qu'on a avec le peuple et Moïse, ici, la tension qu'il y avait, que nous allons être sanctifiés seulement dans la mesure où nous sanctifions Dieu. Si on se met de l'avant, ça ne va pas aller. Si on se met à blâmer les autres, on ne s'en va nulle part. Ce peuple, au lieu de blâmer Moïse et Aaron, aurait dû s'humilier et dire « On a rejeté la grâce de Dieu. » Puis si on est encore vivant et qu'on n'est pas consumé, c'est à cause de la grâce de Dieu aussi. Au lieu de se plaindre, ils auraient dû tomber sur leur face et dire « Wow, Dieu est donc bien patient avec nous autres. » Au lieu de devenir impatient avec les autres. C'est ça toute la dynamique de la loi. « Ah, c'est de ta faute, puis c'est toi, puis t'as fait ça. » Ils auraient dû tout tomber sur leur face puis dire « Wow, c'est nous qui... » À nous, la confusion de face. Je voulais un passage là-dessus qui relate les événements... Dans le psaume 106, ça relate ces événements-là. Entre autres, ça dit « Ils oublièrent bientôt ses œuvres. » Ici, ça parle du peuple dans le désert qui oublièrent les œuvres de l'Éternel. « Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans la solitude. » Et c'est ce qu'on voit ici. Et tout ça, évidemment, ça faisait beaucoup. Ça augmentait énormément les tensions entre Moïse, Aaron et le peuple. Et le fait que cette relation était basée sur la loi, comme je vais vous le démontrer, ne faisait que empirer les choses. Pourquoi? Parce que lorsque la relation est basée sur ce que l'autre fait, ne fait pas, aurait dû faire, et qu'on ne parle pas avec la puissance de la douceur, vous savez, la Bible nous dit que c'est une prière de Paul que Dieu dirige nos cœurs vers la douceur et la patience de Christ. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Écoutez la puissance de la douceur. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince, et une langue douce peut briser des os. La vie de Christ, c'est ça qui est la puissance qui brise celle de l'amertume, de la colère, et de ces choses qu'on voyait ici se passer dans la relation entre le leadership et le peuple. Et cette grâce est comme un fleuve d'eau vive. Jésus a dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. C'est par la foi que ça va arriver. Lorsque notre foi, c'est l'accès à Dieu, c'est l'accès aux ressources infinies de Dieu. Dieu, nous avons toute plénitude en lui, c'est par la foi qu'on y accède. C'est notre accès à la vie surnaturelle, à la victoire qui est en Dieu et qui supplante la mort d'une relation basée sur la loi. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, d'abord, il faut savoir qu'une relation basée sur la loi ne peut mener qu'à la mort. Pourquoi? Parce que la loi révèle le péché. Et le péché, c'est jamais bon. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, une relation basée sur la loi ne fait que révéler la laideur du péché. C'est ça le but de la loi. Elle est bonne, elle est parfaite. Le problème, c'est pas avec la loi. Le problème, c'est avec l'usage de la loi. Si je veux la prendre pour régir mes relations, je vais tout le temps être tendu, constamment. Ça ne va jamais marcher. C'est pour ça qu'on comprend qu'une relation basée sur la loi ne fait qu'augmenter les relations, les tensions relationnelles. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas basée sur le fait que Dieu est la vie même de toutes les relations. Et cette vie-là de Dieu supplante la puissance de la mort dans notre relation avec les autres. Le vrai problème, écoutez bien là, c'est que, comme Dieu le dit dans le verset 12 qu'on a lu là, Moïse ne croyait pas tout ce que Dieu est. Un peu comme Jonas qui voulait juste un Dieu, hein, il était sélectif, il voulait un Dieu qui était vindicatif avec les méchants. Mais ici, Moïse aurait voulu un Dieu qui s'occupe de ces rebelles-là, puis qui est fait domptaire. Le Dieu de grâce, là, c'est comme on a passé ce point-là, OK? Comme Jonas était sélectif dans ce qu'il voulait de Dieu. Et écoutez ce que ça dit encore dans le psaume 106, au verset 33. Ça dit, « Ils aigrirent son esprit. » Le peuple de Dieu a aigri l'esprit. de Moïse et il s'exprima légèrement des lèvres. C'est ce qu'on a lu. Ça, c'est le commentaire biblique dans le psaume de ce qu'on a lu dans Nombre. Et ça, mes amis, c'est l'effet inévitable de la rébellion. Ça va aigrir notre esprit. C'est-à-dire, on n'est pas supposé être heureux lorsqu'il y a de la rébellion. On dit, ouais, mais comment je peux avoir de la grâce quand je vois autant de c'est mauvais la rébellion. Absolument. C'est-à-dire, Dieu est pas, c'est pas comme si Dieu l'excuse. C'est là que je veux qu'on aille plus loin dans notre compréhension ce matin. C'est que lorsque cette rébellion est rencontrée par simplement la loi, on est dépourvu. Mais lorsqu'elle est rencontrée par la puissance supérieure de la vie, de la grâce de Dieu, cette puissance va supplanter l'amertume, la colère qu'il peut y avoir dans les relations. Et ça, mes amis, c'est contagieux. Ici, on entend Moïse, il était comme ça, mais Aaron est à côté, puis je vais vous dire, il devait bouillir tout autant. Pourquoi? Parce que ça nous dit dans la Bible que on doit veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. C'est grave. La grâce de Dieu, c'est la chose la plus importante pour la vie de chacun ici. Mais on s'en prive lorsque les racines d'amertume poussant des rejetons produisent du trouble et plusieurs en sont infectés. Oh, mes amis, les méfaits que ça fait lorsque on se laisse envahir par cette dynamique de la loi dans nos relations. Ça crée de l'amertume, de la colère, des tensions. Mais j'aimerais souligner, en terminant avec ce premier point-là, lorsque nos relations sont basées sur la loi, oui, ça donne toutes sortes de choses mauvaises, et on le voit ici. Mais malgré toute cette débâcle de notre nature pécheresse, malgré le fait que Moïse, comme ça, a parlé légèrement des lèvres, je veux pas qu'on passe à côté de la supériorité, de la majesté, de la grâce de Dieu qu'on voit au verset 11. L'eau est quand même sortie du roche. Avez-vous remarqué? Mm-hmm. Puis je pense qu'il y a un point important là-dedans. C'est une puissante illustration, malgré le péché, l'orgueil, l'incrédulité, Dieu a quand même utilisé Moïse pour faire sortir l'eau du rocher. C'est spécial, n'est-ce pas? N'est-ce pas que Dieu voulait montrer que tout est par grâce? Que c'est pas plus Moïse qu'un autre? Si c'était pas de la grâce de Dieu, on serait tous morts de soif. Mais la grâce de Dieu est intervenue. Ça nous rappelle que l'œuvre, le dessein de Dieu ne dépend pas, n'est pas limité à notre performance. Heureusement! Mes amis, Dieu serait mal pris s'il fallait qu'il soit limité par notre performance humaine, parce que ça fait vraiment pitié. D'où la vanité d'essayer plus fort, d'essayer la voie de la loi, le chemin de la loi face à un rocher d'eau abondante comme Christ. Je veux dire, ça ne va jamais être égal. Le but de tout ça, c'est montrer que de Christ, c'est lui que le flot de vie, le flot de grâce coule. Donc ça m'amène au deuxième point ce matin. La première réponse, c'est selon la loi, ça ne fait qu'augmenter les tensions, ça remplit les choses. La deuxième façon qu'on peut interagir avec les autres, qui va révéler le fruit de nos œuvres, c'est d'agir selon la grâce. Et on l'a vu tantôt, notre cher Moïse, on l'a vu dans le texte de Nombre, on a vu aussi dans le psaume comment il s'est exprimé légèrement des lèvres. Mais on peut lire dans le Nouveau Testament, dans Colossiens chapitre 4, verset 6, ça dit « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Afin que vous sachiez comment répondre. Vous savez, la réponse de Moïse a été dictée par ce qui était dans son cœur. Dans son cœur, je veux dire, il n'était plus capable. La bouche parle de l'abondance du cœur. Lui qui, pendant tout ce temps-là, avait le peuple qui l'irritait, tout ça, ça l'a fini par sortir. Il dit, est-ce que nous autres, on va vous faire ça? C'est ce qu'il y avait dans son cœur qui est sorti. La loi, cette relation basée sur le mérite était là, puis il n'était plus capable. Mais lorsque la grâce de Dieu remplit nos cœurs, regardez ce que ça donne. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Écoutez ici Romains 8, 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça, c'est la puissance de la grâce de Dieu dans la vie, dans le cœur de quelqu'un. Et tu sais, dans Colossiens, quand ça parle de assaisonner de sel, vous savez, c'est pas juste pris de même. Hein. Comment ça qu'il parle de sel de même? C'était-tu un livre de recettes? Coudonc, la fin du livre de Colossiens? Non, en fait, c'est parce que dans Lévitique, on apprend que les offrandes, dans Lévitique 2.13, on apprend que les offrandes de l'Ancien Testament étaient assaisonnées de sel en signe de l'Alliance. De même, nos paroles sont le signe de l'Alliance de la grâce. Comme les offrandes assaisonnées de sel est un signe de l'Ancienne Alliance, nos paroles, qui est l'abondance d'un cœur régénéré par la grâce de Dieu, c'est le signe de la Nouvelle Alliance, c'est le signe qu'on a un nouveau cœur régénéré par le Saint-Esprit. Parce que du cœur sort... de l'abondance du cœur sortent nos paroles. C'est pour ça que ça dit dans Hébreux 13, 15, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » On comprend comme ça que le signe, la façon de savoir comment ou à quel point nous nous plaçons sous cette nouvelle alliance, nous vivons la lumière de cette nouvelle alliance, c'est ce qui sort de nos lèvres. Et c'est là que vous disiez le verset. Rendons continuellement grâce à Dieu parce que c'est la volonté, c'est sa volonté pour nous en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'à l'anniversaire de la Nouvelle Alliance, on comprend qu'en Christ, Dieu a révélé pleinement sa volonté, a révélé pleinement qui il est, pour ce qu'on peut en comprendre. Je veux dire, quand je dis pleinement, c'est on a la révélation complète de la parole. Et en Jésus-Christ, comme ça, on peut comprendre que toute chose fait concours. Même les choses les plus dures, les plus pénibles dans nos vies, on comprend à la lumière de l'œuvre de Christ, de sa rédemption, que Dieu les fait concourir pour notre bien. Pas juste oh, notre confort facile, ça va lui. Non, parce qu'il veut nous rendre conformes à l'image de son Fils. Dieu fait ça pour former Christ dans ses enfants. C'est pour ça qu'on y rend grâce, même quand ça me manque, même quand c'est difficile, parce qu'on comprend qu'il y a un sens à la souffrance. C'est Christ et sa rédemption qui donne le sens à tout ce que nous vivons, spécialement à la souffrance. Et c'est ça la merveille d'apprendre de Dieu lui-même. Vous savez, une des prophéties que Jésus a données dans Jean 6 et qui est l'accomplissement de Ésaïe 54, elle dit « Tous seront enseignés de Dieu ». Les enfants de Dieu, puis ça nous dit aussi dans Jean que l'Esprit lui-même, hein, son onction, nous enseigne toutes choses. Dieu lui-même nous enseigne. C'est pour ça qu'ici, je suis là, je prêche la parole, mais le vrai enseignant, c'est pas moi. C'est Dieu, le Saint-Esprit. C'est lui qui vraiment fait le vrai travail. Sinon, c'est pas plus que juste une classe d'école théologique. Mais non, c'est bien plus que ça. C'est Dieu qui rencontre son peuple, qui parle au cœur même et qui se sert de sa parole vivante, lui, l'Esprit vivant, pour accomplir les choses qui ont part à la vie de Christ. Et je veux juste amener un point ici. Lorsqu'on est enseigné comme ça de Dieu, Dieu nous enseigne à répondre à sa grâce par la grâce. Plus la loi. Pas parce que la loi est mauvaise. On s'entend, la loi, elle est bonne, elle est parfaite. En fait, c'est la révélation du caractère de Dieu. Mais lorsque Dieu nous apprend sa grâce, on apprend à répondre à lui d'abord. Qui Dieu nous a traités dans sa grâce, comme tu sais, ça te disait tantôt, on se pardonne réciproquement. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on a été pardonnés en Jésus-Christ. Donc, pourquoi je pardonne un autre? Parce que j'ai été pardonné, voyez-vous? À cause de la grâce de Dieu, maintenant, je peux étendre cette grâce. Pas parce que je suis devenu une bonne personne, c'est parce que je suis l'objet de la grâce de Dieu. Puis à cause de ça, maintenant, je réponds à cette grâce en l'étendant moi-même aux autres. Et vous savez, si on faisait le tour ici, là, que ce soit au niveau familial, au niveau professionnel, à différents niveaux, famille immédiate, famille étendue, nous avons tous des relations, des situations dans lesquelles l'élastique de la grâce, il s'étire des fois tellement au point que, comme on dit en bon québécois, il pète. Sous la pression. Hein, il y a une pression dans les relations qui peut s'agrandir comme ça. Et quand il pète cet élastique-là, ben on retombe sous la réponse de la loi. Mais savez-vous que c'est jamais le cas avec Dieu?
Amen.
Que Dieu, sa grâce est infinie, que ses bontés se renouvellent à chaque matin. qu'il n'y a pas un matin qui va dire, là, tu ne mérites plus ma grâce. Si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes dans le bien-aimé, vous êtes aimé d'un amour éternel, puis c'est pour ça que Dieu nous conserve sa bonté. Ça ne peut pas changer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas basé sur nous, c'est basé sur le Fils bien-aimé. Et c'est l'unité même de Dieu qui est en jeu. On ne peut pas briser ça. Si on pouvait briser ça, là, ça changerait quelque chose. Mais à cause de ça, il n'y a rien qui va changer ça. C'est incroyable, pareil. C'est mind-boggler, comme dirait Maxime. Puis là, c'est vrai, c'est le genre d'affaire qu'il dirait. Comment il dit ça? Jonas avait... Non, pas Jonas. En tout cas, il y avait pas mal de checkbox de... Ah, tu sais comment qu'il nous a sorti ça l'autre jour? Oh, yeah, il nous en sort des bonnes. Notre franglais. Il y avait pas mal de... Il y avait pas mal de checks de fait dans son... dans sa liste de godliness. OK, pour revenir aux choses sérieuses, OK? Il y a de la tension. Des fois, l'élastique peut péter, mais avec Dieu, non.
Amen.
Maintenant, écoutez bien. Là. C'est juste parce que j'apprécie pas cette grâce, que je ne vis pas la lumière de cette grâce, que dans mon cœur, j'ai tout le temps cette reconnaissance envers Dieu pour cette grâce dont je suis l'objet. C'est pour ça que j'ai de la misère avec les autres. Parce que je vis pas la lumière de ce que Dieu, comment lui me définit, de comment ma relation est basée. À cause de ça, là, je deviens dur avec les autres. Parce que j'oublie ce que je suis en Jésus-Christ. Et savez-vous quoi? Parce que dans le fond, moi-même, dans ma relation avec Dieu, je l'approche sous l'angle de la loi. Et ça, ça se reflète dans mes relations. Moi, je n'ai pas été gentil, Dieu n'est pas content avec moi. Tu sais, Dieu, je veux dire, Dieu n'excuse pas le péché, puis il ne passe pas au-dessus du péché, le péché a ses conséquences. Mais si vous êtes en Jésus-Christ, il n'y a rien qui peut vous séparer de cet amour.
Amen.
Puis c'est là qu'il faut qu'on accepte ça. Et... faut prendre Dieu au mot. Écoutez, je vais vous lire un petit verset, mais qui en dit tellement long. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et quand on comprend ça, je suis sous la grâce, dans la grâce, je suis submergé par cette grâce. Et à cause de ça, le péché n'est plus mon maître, n'est plus ce qui me définit. Et quand je comprends ça, dans ma relation avec Dieu au niveau vertical, ça va changer toutes les choses au niveau horizontal. Autrement dit, on est souvent pris avec cette pensée, cette mentalité. Et écoutez bien. On a souvent cette mentalité. Oui, mais... Puis là, on rajoute, je mérite pas, il mérite pas. T'sais, oui, mais... Puis là, il y a la notion de mérite. Oui, mais c'est la pensée de la loi. Oui, mais... On pense à ça nous-mêmes face à Dieu, mais aussi avec les autres. Oui, mais Seigneur, t'as pas vu ce qu'il a fait? T'as pas vu depuis combien de temps? Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Mais la grande leçon ici dans Nombre 20, c'est celle de la croix. Où est-ce qu'il y a plus de oui, mais seulement Dieu qui dit « Mais Dieu! » Mais Dieu, hey, je vais vous en donner une couple de mais Dieu, écoutez bien ça. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'y a pas de oui mais là-dedans. Mais vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts. Il me prendra sous sa protection. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Mais Dieu. Pourquoi est-ce qu'on insiste à dire « oui, mais » lorsque Dieu dit « mais Dieu » Non, mais pensez à ça. Ce n'est que par orgueil et par incrédulité. C'est parce qu'on ne croit pas Dieu pour ce qu'il dit lui-même, puis on ne le sanctifie pas comme ce Dieu qui est unique, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute consolation. Et nous ne pouvons pas offrir à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom avec des « oui, mais ». Pourquoi? Parce que c'est le langage, la réponse de la loi du mérite des performances. On ne chante plus dans notre cœur lorsqu'on est pris dans nos oui mais, mais plutôt on regimbe. Mais Dieu nous apprend à le sanctifier. Lorsque dans l'humilité, nous répondons par la foi à ce qui nous contredit, à ce qui nous irrite, à ce qui nous rend amer, à ce qui nous blesse. Et que face à ces choses, au lieu de regarder à ça, nous adorons Dieu, nous regardons à Dieu ce qui est un acte d'adoration. Lorsque, au lieu de regarder à ces choses qui me font mal, qui me blessent, qui légitimement sont pas correctes, que je me tourne et que c'est à Dieu que je regarde, le chef et le consommateur, là j'adore mon Dieu, en esprit et en vérité. Et que là, dans mon cœur, il peut y avoir une louange. Pourquoi? Parce que c'est vrai toutes ces affaires-là, mais Dieu! Mais Dieu! Est-ce que ton cœur chante ou regimbe ce matin? C'est un signe infaillible d'où tu es en train de regarder en ce moment. Ou plutôt, on pourrait dire à qui tu réponds et comment tu réponds à ce que Dieu t'envoie. Si tu n'as que des « oui, mais » ton Dieu n'est pas assez grand. Et ce n'est pas celui de la Bible. Parce qu'il n'est pas plus grand que tes problèmes, il n'est pas plus grand que tes circonstances. Aussi grave soit-il. Puis je ne veux pas être dur en disant ça, je veux dire qu'on est tous dans le même panier. Okay? On a tous tendance à dire « oui, mais » au lieu de dire « mais Dieu mm-hmm. ». Peut-être que le problème ce matin, c'est parce que tu ne connais pas ce Dieu grand et merveilleux. Pour toi, ce n'est qu'une théorie, c'est quelque chose qui est pour les autres, mais que tu n'as pas expérimenté pour toi-même, personnellement, dans ta situation, dans ta vie. Si c'est le cas, tu dois le connaître aujourd'hui, personnellement, par Jésus-Christ, son Fils. Il n'a qu'une façon d'être réconcilié avec Dieu. C'est par Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu qui est venu, qui a donné sa vie comme un parfum d'agréable odeur à Dieu. Sa vie, il l'a donnée. Il a pris, lui, notre condamnation. Il est devenu, lui, péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et c'est la seule façon d'être réconcilié avec Dieu, c'est par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre façon d'être agréable à Dieu. Si aujourd'hui, vous ne le connaissez pas encore comme votre sauveur, comme votre justice, comme votre vie, vous pouvez, en venant à lui, être réconcilié avec Dieu. Aujourd'hui, ça peut changer. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et là, vous allez accomplir le dessein que Dieu nous donne dans Psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Et peut-être ce qui est entre toi et Dieu en ce moment, pour le salut de ton âme, c'est un oui mais tellement gros, qui oublie que mais Dieu prouve son amour envers nous, que lorsque nous étions encore des pécheurs qui disent oui mais puis qui prient dans le bourbier, mais Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Si vous êtes ici, vous le connaissez, ce rocher sur lequel Dieu a placé vos pieds, ce rocher d'où coule le flot de vie, l'eau vive. Oh, qu'est-ce qui sort de votre bouche? Un sacrifice de louange, le fruit de lèvres qui confesse son nom, ou l'amertume. L'un est une réponse orgueilleuse, incrédule, exprimée par « oui, mais ». Puis Moïse en avait un énorme « oui, mais ». Comme je dis, j'arrêtais à sa place. Ça fait longtemps que j'aurais flanché. Mais nous, en tant que pierre vivante dans la maison du Dieu vivant, on est appelé à s'édifier mutuellement et à se rappeler constamment que peu importe ce qui peut arriver, Dieu est toujours là. Et là où est-ce que nous, on dirait c'est la fin de l'histoire, c'est fini, j'en ai assez. Dieu dit, mais Dieu. Mais Dieu est plus grand que ça. Dieu est capable. Et ce qu'on met de l'avant ensemble, c'est le « mais Dieu » de l'Évangile. Mais Dieu, là où est-ce que le péché est détruit, là où est-ce que tout est défait à cause du péché, nous avons accès à sa grâce infinie en Jésus-Christ. Mais Dieu. Wow! Et je veux juste terminer avec ceci au verset 13. On l'a lu, mais je veux juste souligner. Regardez la grandeur de la grâce de Dieu. J'ai dit, l'eau est sortie, mais aussi, ce sont là les eaux de Meriba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel. Qui fut sanctifié en eux? Moïse n'a pas réussi à sanctifier. Dieu, vous ne m'avez pas cru, vous ne m'avez pas sanctifié. Dieu lui-même s'occupe de ça. Dieu est assez grand, assez infini pour se défendre lui-même, défendre sa gloire. Nous sommes simplement appelés à rentrer là-dedans, à lui faire confiance et que Dieu puisse vraiment nous aider à voir de, dans tout ce qu'il fait, Dieu veut être sanctifié. Et notre réponse est simplement de lui faire confiance et le laisser faire les choses à sa façon. On te remercie, Seigneur, pour ta parole, pour ce passage qui a repris vie devant nos yeux ce matin. Merci que tu es ce Dieu qui nous amène ta parole directement dans le cœur, qui nous l'amène là où est-ce que ça fait la vraie différence. Seigneur, je prie que ceux qui sont sans la vie de Christ en ce moment, que tu les régénères, que tu visites leur cœur. Seigneur, qu'ils passent de la mort à la vie, qu'on voit le miracle de la nouvelle naissance. Ce n'est que de toi, c'est de toi que vient la vie. C'est toi qui donnes la vie. On invoque ta grâce, Seigneur. Qu'il soit ici ou qu'il ne soit pas, Seigneur, on t'invoque ta grâce salvatrice pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Et pour tes enfants qui sommes ici ce matin, Seigneur, on invoque aussi ta grâce, que tu nous ouvres les yeux sur ta grâce afin qu'on réponde à la lumière de cette grâce. Qu'au lieu de tomber dans le piège de la loi, du mérite, du « oui, mais », qui est souvent très légitime. Ah, qu'on voit que le Dieu de toute grâce change le mal en bien, qu'il est capable de faire en nous, à travers nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. C'est à toi qu'est la gloire, Seigneur. C'est toi qui fais ces choses et c'est merveilleux à nos yeux. On te loue, on bénit ton grand nom, celui de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen.